Nous sommes donc arrivés à 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Depuis le départ, je vous ai dit que l'angle que j'utilise, que je prends pour étudier cette épître, c'est les meilleures choses ou les choses les meilleures. Et ici, nous allons voir ce soir que mieux que les superstitions ou mieux que les fausses doctrines, eh bien, la piété nous est présentée comme quelque chose de précieux. Et nous allons voir un peu tout cela donc dans ce passage, les meilleures choses pour le chrétien. Il commence avec l'Esprit qui nous parle. Et c'est vrai que le Saint-Esprit parle à travers des prophètes, à travers la Bible. Et ce ne sont pas seulement les prophètes, hein, mais c'est le Saint-Esprit qui les inspire et c'est lui qui nous parle. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Alors, l'apôtre Paul parle souvent des derniers temps. En 2 Timothée chapitre 4, il dit, hein, dans les temps de la fin, les jours seront difficiles. 2 Timothée chapitre 3, par exemple. Pardon. Et Paul vraiment vivait comme si le Seigneur allait revenir demain. Et même aujourd'hui, je dirais. Il avait cette attente et on se dit parfois comment un homme comme Paul a pu évangéliser autant de villes, gagner autant de personnes à Christ, suivre autant de chrétiens par la suite, parce qu'il s'occupait de beaucoup de monde. Quand vous lisez Romains chapitre 16, vous avez une petite idée des personnes que Paul connaissait et pour qui il priait. Vous avez une liste là. Mais ça, c'était une partie. C'était les gens qu'il connaissait liés à l'église de Rome. Mais imaginez, il y avait Thessalonique, Philippe, Colosse. Il devait avoir une liste de prières phénoménale et il ne négligeait personne dans la prière. Sa vie a été raccourcie parce qu'il a été condamné à mort par les Romains. Il a passé une grande partie de son temps en prison à partir du moment où il s'est converti. Et pourtant, il a bouleversé la Grèce, la Turquie actuelle, hein, l'Asie mineure. Il a évangélisé dans d'immenses villes comme Athènes, Éphèse, c'était des grandes capitales, Corinthe. Comment cet homme a-t-il pu faire tout cela? Ben, il y a une chose qui a joué, c'est qu'il vivait en attendant le retour du Seigneur. C'est-à-dire, pour lui, Christ était à la porte, il fallait faire le maximum avant qu'il arrive. Ça ne veut pas dire que Paul était dans une sorte de frénésie. Qu'on appelle nous l'activisme un petit peu dans les églises, mais c'est que il voulait faire compter son temps. Lorsqu'il était avec quelqu'un, il parlait de Dieu, que ce soit pour son âme ou pour l'édification, si c'était un chrétien. En prison, pensez-vous qu'il s'est morfondu en pleurant toute la journée? Non, en prison, il écrivait des lettres, il priait continuellement. C'était les deux choses qu'il pouvait faire. Eh bien, il ne s'est pas gêné, il a écrit énormément de choses en prison. On n'aurait pas toutes les épîtres de Paul s'il n'avait pas passé tout ce temps en prison. Et il a dû se demander parfois, Seigneur, pourquoi tu me laisses tout ce temps en prison? Parce que c'était un homme très actif, Paul. Déjà, avant de se convertir, il était déjà en train d'être actif pour faire arrêter les chrétiens. Et quand il s'est converti, quand il a rencontré le Seigneur, il est devenu actif pour sauver les âmes, pour annoncer la bonne nouvelle. Et puis, chaque fois, il était arrêté, emprisonné, il a passé des années. Mais en fait, le Seigneur voulait que par le Saint-Esprit, il nous écrive ces épîtres qui sont tellement édifiantes, où il y a tellement de doctrines, de choses précieuses pour notre foi depuis 2000 ans qu'elles ont été écrites. Nous aussi, si nous vivons comme si on était dans les derniers temps, hein, notre vie va compter beaucoup plus. Si on se dit, oh, le Seigneur peut revenir dans 150 ans, sous-entendu, ben, je vais faire ma vie, ma petite vie sur la terre. Je vais m'installer. Quelle va être ma priorité? Ma priorité, ça va être bien gagner ma vie, avoir des bonnes vacances, bien m'amuser, bien passer du bon temps sur la terre. Et puis, voilà, ça va être ça ma vie. C'est-à-dire la vie, comme dirait la Bible, d'un païen. Que recherchent les païens, si ce n'est à bien manger, à bien s'amuser, à bien faire la fête et mourir le ventre bien rempli. Mais un chrétien, lui, doit avoir une autre optique dans la vie, c'est les choses éternelles. Le Seigneur a dit, hein, regardez, cherchez le royaume de Dieu, amassez pour le ciel et pas pour la terre. Et donc, notre investissement, que ce soit financier ou surtout de notre temps, de notre cœur, doit être dans les choses éternelles. Ici, l'Esprit nous dit qu'à la fin des temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et c'est ce qu'on appelle dans la Bible l'apostasie. Apostasie, ça veut dire quitter votre état précédent. Donc, si vous étiez dans la foi chrétienne, l'apostasie, c'est quitter la foi chrétienne. Si vous étiez dans la foi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vos péchés et que vous êtes un apostat, ça veut dire vous dites non, ce n'est pas vrai. Christ n'est pas mort pour nos péchés, il n'est pas le Fils de Dieu. Alors, ça nous pose une question, est-ce qu'un vrai chrétien peut apostasier? C'est-à-dire quelqu'un qui est né de nouveau, est-ce qu'il peut quitter la nouvelle naissance? Ben, la réponse est un peu dans la question. Est-ce qu'on peut ne pas naître ou dénaître? Quand vous naissez, vous êtes né. Et puis, on ne peut pas revenir dans le sein de sa mère ou aller en arrière. Et il y a beaucoup de promesses de Dieu qui disent, quand on est sauvé, c'est une fois pour toutes. Quand on a le Saint-Esprit, on est scellé jusqu'au jour de la rédemption par le Saint-Esprit. Que rien ne peut nous arracher de sa main, il nous a donné la vie éternelle. Un apostat, en général, c'est quelqu'un qui fréquente la chrétienté, l'Église, qui ressemble à un chrétien, qui a les mots d'un chrétien, qui a peut-être fait une sorte de profession de foi, il a adhéré à la Bible ou à l'Évangile intellectuellement. Et puis il y a un moment où il dit non, c'est trop, ça va pas, ça me plaît pas. Et non seulement il va quitter l'Évangile, mais il va devenir un ennemi de l'Évangile. C'est comme ça que dans l'Église, les pires ennemis de l'Église, c'était d'anciens chrétiens, hein, qui ont apostasié, qui ont renié la foi. Une sœur en Christ m'a passé récemment un petit article d'un pasteur réformé qui est décédé il y a quelques mois, et donc la radio protestante a fait un éloge de ce pasteur. Et dans cet article, il est absolument franc et direct et clair. Il dit, mais comment pouvez-vous croire que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il est Dieu incarné, qu'il est venu nous sauver? Nous savons bien que Jésus était un homme comme vous et moi, et qu'il a rempli sa mission, et qu'il était venu nous apporter le message du royaume, etc. Et j'ai lu ces mots, j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas un pasteur qui écrit ça. Un pasteur. Qu'est-ce qu'il pouvait enseigner quand il était vivant, hein? Qu'est-ce qu'il va laisser comme héritage, justement? Ben, des chrétiens qui vont dire, ben, Jésus, de toute façon, voilà, c'était un homme comme toi et moi, hein, donc. Et ça, c'est quand même de l'apostasie. C'est quelque chose de terrible. Et la Bible dit que l'apostasie va aller en augmentant plus on arrive à la fin. Et on voit effectivement de plus en plus d'églises qui quittent la foi. Et ça commence en général avec la Bible. Elles disent que la Bible n'est pas totalement inspirée, n'est pas totalement vraie, qu'elle contient des morceaux de parole de Dieu, mais que c'est à chacun de nous de faire le tri. Ce passage-là, oui, bon, ça, oui, ça, c'est fort, c'est très poétique, ça me parle, c'est émouvant. Mais alors l'histoire, là, non, non, ça, non, cette histoire, c'est pas la parole de Dieu. Et donc, les chrétiens font le tri dans leur Bible. J'aime bien raconter l'histoire de ce chrétien qui était simple dans sa foi, et malheureusement, il a eu un pasteur qui est venu dans son église qui était complètement libéral, c'est-à-dire il ne croyait plus aux miracles, ne croyait pas à la résurrection et aux choses comme ça. Et pendant des années, ce pasteur a prêché, et cet homme donc a écouté et a été assez obéissant à son pasteur. Il a cru ce que disait son pasteur. Arrive le jour où ce chrétien est mourant sur son lit et le pasteur vient lui rendre visite. Et il dit: « Oh, cher frère, vous allez nous manquer, c'est terrible ce qui vous arrive, etc. » Et puis le pasteur dit: « J'aimerais vous lire un passage biblique, pourriez-vous me passer votre Bible ?» Et alors le chrétien dit: « Oui, elle est là sur ma table de chevet. » Et il lui passe une sorte de cahier très fin, et il dit: « Non, votre Bible, oui, c'est ma Bible, pasteur. Mais il manque des pages, qu'est-ce qui s'est passé à votre Bible ?» Ben, moi, vous savez, au fur et à mesure que vous disiez que ça, c'était pas inspiré, c'était pas vrai, moi, j'ai enlevé les pages de ma Bible. J'ai voulu garder que la parole de Dieu. Et maintenant, c'est tout ce qui reste de ma Bible, d'après ce que vous m'avez dit. Et là, le pasteur a réalisé l'effet de son enseignement. Ça commence comme ça, et puis petit à petit, ben, finalement, la Bible, on dit, on la met au placard, et puis on se base sur des enseignements moraux ou philosophiques ou psychologiques ou tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça que commence l'apostasie. Lorsque l'homme, au lieu de se baser sur la révélation de Dieu, il se base sur sa propre intelligence. Et la Bible dit que notre propre intelligence n'est pas capable de comprendre les choses de Dieu. Donc, forcément, on va se planter, on va dire n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'il y a tant de sectes et de groupes dans tous les sens. Et ils vont se multiplier. Il y a plusieurs églises chrétiennes aux États-Unis et en Angleterre qui sont en train de se diviser parce que certaines acceptent des homosexuels comme évêques ou des lesbiennes comme évêques. Et donc, il y a des chrétiens encore dans ces églises qui disent: non, ça c'est un peu trop ça. Une femme à la rigueur, mais en plus lesbienne. Donc, où vont les églises? Je veux dire, même les gouvernements, ils hésitent encore à le faire. Alors, les églises sont en avance des fois hein, sur certaines choses. Mais c'est quand même un signe d'apostasie parce que ces églises sont en train de mourir en réalité. Elles ne sont pas vivantes parce qu'elles ne prêchent pas l'évangile. Elles font des beaux discours comme dans un club. Et les gens viennent se rasséréner de beaux discours, mais il n'y a pas l'évangile qui change les vies, qui sauve les âmes. Alors, ce qu'on apprend dans ce passage, c'est qu'ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. On découvre que les démons ont des doctrines. On imagine, quand on pense aux démons, on pense toujours à quelqu'un de possédé par un esprit qui se tord dans tous les sens. Mais les démons sont beaucoup plus fins qu'on imagine. C'est qu'ils se sont dit, plutôt que de posséder quelqu'un, on va l'influencer pour qu'il sorte une nouvelle doctrine, pour qu'il influence les chrétiens dans l'erreur ou qu'il influence le monde dans l'erreur. Je suis persuadé que toutes les grandes fausses doctrines qui existent ont été inspirées par un démon. Et que certains philosophes, que certains penseurs, certains gourous, était vraiment inspiré par un démon. D'ailleurs, il y en a qui ne s'en cachaient pas. Hein, ils ne parlent pas de démon, mais ils parlent de leur ange ou de leur esprit guide. Hein. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit: moi, j'ai un esprit guide, il faut traduire un démon, parce que les esprits qui veulent vous guider, ce sont les démons. Et ils sont séducteurs, c'est-à-dire ils vous font croire qu'ils sont l'esprit d'Alexandre le Grand, de Napoléon. Pour vous flatter, ah ben moi j'ai Napoléon qui vient me parler tous les matins et vous vous sentez quelqu'un d'important. Sauf que ce n'est pas Napoléon, c'est un esprit démoniaque et qui va essayer de vous influencer, de vous entraîner dans des choses qui vont détruire votre âme et celle de vos proches. Les démons ont des doctrines et c'est pour ça que nous devons prêcher la doctrine du Seigneur, la parole de Dieu. Il y a vraiment un combat spirituel entre l'erreur et la vérité. Et en tant que croyant, nous ne devons pas regarder l'erreur en disant, ah ben oui, c'est comme ça, avec fatalisme, mais on doit combattre l'erreur et le mensonge en prêchant la vérité. Et plus on prêche et on explique la Bible, plus les gens peuvent venir à la lumière de Christ. Mais il faut la prêcher avec foi et une entière foi en ce qu'elle dit. Alors, ces démons influencent donc des faux docteurs, dit le verset 2. Dans le grec, littéralement, c'est l'hypocrisie d'enseignants du mensonge dont la conscience est marquée au fer rouge. Ce sont donc des enseignants du mensonge dont la conscience est marquée au fer rouge. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression, hein, la conscience est marquée au fer rouge? Quand vous marquez quelque chose au fer rouge, ça devient indolore, c'est-à-dire vous ne sentez plus la douleur une fois que ça a été brûlé. D'accord? Et donc cette idée-là, c'est que ces personnes ne sentent plus l'erreur, ne sentent plus le mal qu'ils font, leur conscience est cautérisée, hein, c'est ça qu'on dirait en français, c'est-à-dire elle est brûlée à vie, ils ont brûlé leur conscience tellement ils sont allés loin dans l'erreur et l'apostasie. Et je crois qu'il y a un moment où lorsque on explore avec notre pensée des choses spirituelles sans la parole de Dieu, on peut sombrer soit dans la folie, soit dans cet état de conscience brûlée. Paul donne l'exemple en 2 Timothée 2,17 d'Hyménée et Philette, donc c'est l'épître suivante, au chapitre 2, verset 17. Verset 16, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Donc, dans l'Église, au temps de Paul, il y avait déjà des gens des faux docteurs, hypocrites. Pourquoi hypocrites? Parce que souvent, ils disaient, moi, je suis plus spirituel que Paul ou que Pierre, et moi, je vous dis la vérité. Moi, je vais vous éclairer. Et donc, ils se faisaient passer pour des super apôtres, et Paul et Pierre, qui étaient des gens très humbles, comme on le voit hein, dans leurs épîtres, eux, on les prenait pour des rigolos. On disait, ah ben, regarde, Pierre, il n'use même pas de son autorité. Regarde, Paul, il est tout faible quand il est avec nous. Hein, c'est ça que les Corinthiens reprochaient à Paul. Il est tout faible, alors que dans ses lettres, il est fort, mais quand il vient, et on le voit. Mais parce que Paul était humble, il dit, j'aurais pu utiliser mon autorité d'apôtre, mais je ne l'ai pas fait. Et ceux-là, ces hypocrites, eux, ils se prenaient pour des super apôtres. Il disait, la résurrection est déjà arrivée, vous avez raté le train, sous-entendu. Vous imaginez la panique chez ces chrétiens. Vous avez raté la résurrection, l'enlèvement, tout ça. Maintenant, vous allez passer dans la tribulation, vous allez souffrir, ça va être terrible. Ce n'est pas très encourageant pour ces pauvres chrétiens. Ça me fait penser à ceux qui prêchent la fin du monde, hein. Il y a des chrétiens, malheureusement, dans ce groupe qui disent, ça y est, il reste plus quelques jours et c'est la fin du monde. Alors, il faut faire des réserves de nourriture, on va construire un abri anti-atomique, on va mettre toutes sortes de réserves de nourriture, ce qui est en fait un gros, gros commerce qui rapporte beaucoup d'argent pour certains. Mais au fond, au lieu de s'occuper de ça, de dire je vais survivre ou je ne sais pas quoi, on devrait s'occuper encore une fois de ceux qui nous entourent, de rester près de la parole de Dieu. Une chose qui ressort lorsqu'il est question de la fin des temps, c'est que la Bible demande qu'on soit sobre. C'est vraiment un mot qui revient chaque fois. Le temps est proche, soyez sobre. Ça veut dire, ne soyez pas extrême, ne soyez pas dans l'exagération. Sobre, c'est-à-dire manger ce qu'il faut manger, buvez ce qu'il faut boire, faites ce qu'il faut faire, mais pas d'excès. Et souvent, quand on a peur de la fin du monde, on va dans les excès, hein. On dit, oh, on va jeûner pendant 50 jours, on va plus manger, on va plus dormir. Ça ne sert à rien. Ce que Dieu veut, c'est qu'on continue l'œuvre jusqu'au dernier souffle, lorsque le Seigneur viendra. Et il aimerait nous trouver en train de vivre pour lui et non pas d'amasser des boîtes de conserve. Ils prescrivent de ne pas se marier. Donc déjà au temps des apôtres, Il y avait des ascètes. Les ascètes, ce sont ceux qui vous disent qu'il faut s'abstenir de certaines choses pour être plus spirituel. Donc, il donne deux exemples ici, verset 3, ne pas se marier et ne pas manger certains aliments. Donc, ne pas se marier, c'est-à-dire que la sexualité est mauvaise, c'était ça surtout l'idée. Donc, vous devez supprimer tout ce qui est lié au corps. C'est la naissance du mouvement gnostique à cette époque-là. Les gnostiques disaient que tout ce qui est matériel est mauvais. Et ils disaient même que l'Ancien Testament était mauvais, parce que dans l'Ancien Testament, c'est la création matérielle. Et que le Nouveau Testament était bon, parce que le Nouveau Testament, c'était les paroles de Jésus étaient spirituelles, hein, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et donc, on dit, certains gnostiques ne lisaient plus l'Ancien Testament. C'est fini. On a retrouvé ça aussi chez certains cathares, hein, qui avaient eu cette tendance également. Et on ne se marie plus, donc on a, c'est-à-dire plus de relations physiques. On mange parce qu'on, sinon on va mourir, mais on mange vraiment parce que parce qu'il le faut. Et on jeûne souvent, on dort par terre. À côté de son lit, hein, pour être plus ascète, plus spirituel. Et c'est cette idée que plus je renonce à mon corps, plus je suis, plus mon esprit va grandir. Et c'est une idée totalement fausse. C'est très intéressant, mais c'est totalement faux. Dieu nous a créés avec un corps, et notre esprit habite dans un corps. Et si on n'entretient pas ce corps, l'esprit, ne va pas être plus spirituel. Bien sûr, si on est obsédé par le corps et on néglige son âme et son esprit, on fait une faute. On va le voir après. Mais le corps est une création de Dieu. On doit le respecter, l'honorer. La sexualité vient de Dieu. Et dans le mariage, elle est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, ne pas se marier, hein, c'est une interdiction qui est déconseillée, même enfin, dénoncée par l'Esprit de Dieu. On sait que dans l'Église catholique, le célibat des prêtres est venu assez tardivement. C'est vers le 6e siècle que l'idée a commencé à germer, mais tout le monde ne le faisait pas, et c'est le pape Grégoire VII au Moyen Âge, vers le 10e siècle, qui l'a imposé. Ça veut dire que pendant des siècles avant, les prêtres n'étaient pas célibataires, et c'est encore une tradition des hommes pensant que quand vous êtes célibataire, vous êtes tout entier à Dieu. Alors, il y a une part de vrai par rapport à ce que Paul a écrit, hein. Quand on n'est pas marié, on s'occupe des choses de Dieu. Quand on est marié, on s'occupe des choses de sa famille. Il y a une part de vrai, mais le mariage n'est pas non plus quelque chose d'impur. C'est Dieu qui a créé le mariage. Le mariage, c'est une image de Christ et son Église, de Dieu et de son peuple. C'est quelque chose de fantastique comme image. Et d'être marié, c'est une magnifique chose. D'être célibataire, c'est une belle chose aussi parce que justement, on a plus de consécration, de concentration peut-être, pas de consécration, mais de concentration sur les choses du Seigneur. On peut en avoir. Tous les célibataires ne sont pas plus spirituels ou consacrés, hein. Mais donc, interdire le mariage, c'est vraiment quelque chose que Dieu n'a jamais demandé. La sexualité, le mariage sont des choses que Dieu a créées. S'abstenir d'aliments, donc il y avait plein de débats chez les premiers chrétiens. Est-ce qu'ils devaient acheter de la viande et manger de la viande? Parce que la viande s'achetait au marché et toute la viande au marché était sacrifiée à des idoles. Toutes les viandes provenaient de temples d'idoles. Aujourd'hui, nous avons des abattoirs laïques, si on peut dire. Quoique, puisque nous savons que de plus en plus de viande sort des abattoirs halal, qui ne sont plus laïques, qui sont où les animaux sont tués rituellement vers la Mecque avec une prière, et en plus ils ne sont pas anesthésiés avant d'être tués, hein. Donc c'est un peu plus cruel que les abattoirs laïcs. Mais il y avait cette chose, est-ce que je vais manger de la viande sacrifiée aux idoles? Pour les chrétiens au début c'était, mais non, mais non. Et puis petit à petit, ils ont compris dans la parole de Dieu que les idoles n'existent pas, enfin, il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc, si elle est sacrifiée aux idoles, peu importe, c'est de la viande, c'est un animal, une créature de Dieu. La viande n'est pas possédée par des démons. Donc, la manger ne va pas me faire avaler des démons en même temps. Donc, il y a un certain nombre de chrétiens qui ont dit, moi, je vois pas de problème à manger de la viande, même si elle a été sacrifiée aux idoles. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici, hein. Versets 4 et 5, tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que, il y a un autre verset qui dit, hein, mangez de tout ce que vous trouvez au marché. Voilà. Alors, juste, je donne une petite parenthèse. Il y a certains qui disent, mais le cannabis est une création de Dieu, puisque c'est une herbe, ainsi que le pavot, hein, qui fait l'opium, etc., sont des herbes qu'on trouve. Donc, si je fume du cannabis, ce que je fais est tout à fait bien. Je pense notamment aux Rastas, hein, qui croient. Alors eux, ils croient qu'à l'Ancien Testament quasiment, les Rastas, c'est assez particulier. Ils ont une religion, hein, à part, et c'est la religion du pétard. Donc c'est la religion du cannabis où on fume beaucoup. Ce n'est pas parce que le cannabis est dans la nature qu'on doit le fumer d'abord, pour commencer. On sait que ça a des vertus médicinales. On est en train de l'utiliser dans les hôpitaux, mais si c'est médicinal. Quand ça devient une drogue que les jeunes prennent, hein, de plus en plus d'ailleurs en France, on est les plus gros consommateurs de cannabis du monde, hein. On est en tête pour ce genre de choses, notamment notre jeunesse. Dès l'adolescence, ils s'y mettent et certains sont accros avec plusieurs joints par jour, dès le matin en se levant. Et ça a des effets très, très néfastes sur la santé, sur le développement du cerveau et sur le. Sur la vie, il y avait cette femme qui témoignait, qui est adulte, qui disait, en fait, chaque fois que j'avais un problème dans ma vie, chaque fois qu'il y avait un conflit ou une difficulté, je me retirais et je fumais mon joint. Et elle dit, toute ma vie, ça a été comme ça. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans et j'essaye d'arrêter et je découvre que le monde est très dur et je n'ai plus le joint pour me protéger, en fait. C'était mon rempart contre le monde, hein. Ça me permettait d'oublier, de m'évader. De rigoler, de prendre les choses à la légère. Et elle dit, c'est très difficile d'arrêter. Voilà. Mais c'est des gens qui ne vivent plus dans la réalité, hein, et qui ont du mal à avoir un travail ou à le garder, ou avoir une famille à la garder. Non, le Seigneur nous parle ici de choses comestibles pour la nourriture. On peut manger de tout. D'ailleurs, on peut manger de la viande halal. Vous ne serez pas infecté si vous mangez de la viande halal. Mais il y a des chrétiens qui disent, moi, je n'y toucherai jamais. Et c'est leur conscience, laissons-les avec leur conscience. Et en fait, l'idée, encore une fois, c'est de ne pas juger les uns les autres, de ne pas interdire quoi que ce soit. Ils disent, hein, ils veulent que vous absteniez de nourriture, certaines nourritures. Voilà, on ne s'abstient pas de choses, c'est selon notre conscience devant le Seigneur, et on doit être gracieux les uns envers les autres. Tout ce que Dieu a créé est bon, et combien c'est une pensée positive, hein, plutôt que d'être dans le jugement chez les Juifs notamment, et puis on retrouve ça chez d'autres groupes, comme je pense aux Adventistes, par exemple, du septième jour, la nourriture était un sujet de division perpétuelle et d'obsession. Une chose qu'on ne trouve pas dans la Bible, c'est que le judaïsme a commencé à développer l'idée qu'on ne devait pas faire cuire le lait et la viande dans la même casserole. Et donc, les familles juives pratiquantes ont deux services, deux feux. Deux fours parfois, quand ils peuvent, un pour les viandes et un pour les laitages. Et ils ne mélangent jamais. Si jamais il y a un mélange, il faut faire venir un rabbin qui doit faire une séance de purification à la maison, parce que la maison est sous interdit. Voilà. C'est un exemple, hein, comme quoi on peut devenir obsédé par des choses futiles. Parce que au lieu de penser au lait, à la viande et à sa casserole, on devrait penser au Seigneur. Voilà. Et donc, la Bible est très équilibrée là-dessus. Elle dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Prenez-le avec action de grâce. Et c'est pour ça qu'on prie lors de nos repas. Hein. Souvent, on se dit, mais pourquoi vous priez avant de manger? Parce que, quelque part, on remercie Dieu, ça vient de lui. Alors, j'ai pris aussi l'idée, là, il dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Et c'est vrai que les aliments de synthèse ne sont pas créés par Dieu. Il y a certains bonbons où il y a quasiment, à part le sucre peut-être, il y a encore, certaines boissons, presque, elles sont entièrement synthétiques. C'est pas bon pour la santé, hein. Mangeons ce que Dieu a créé. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre, un bon serviteur, hein, littéralement, de Jésus-Christ. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. On voit l'importance pour le pasteur d'être un modèle, la bonne doctrine que tu as exactement suivie, et aussi d'être un bon serviteur de Jésus-Christ qui enseigne ses frères et sœurs dans la doctrine. On n'est pas serviteur premièrement des autres, on est serviteur de Christ premièrement, envers les autres. Et puis on arrive donc vers la fin, il dit, repousse les contes profanes des vieilles femmes. Alors apparemment à cette époque-là, il y avait un certain nombre de légendes, de contes qu'on racontait aux enfants avant de se coucher. Des histoires de sorcières, des histoires de, comme ça. Et qui marquaient les générations. Mon propre père, hein, avait été marqué par les histoires de sorcières. Il vivait dans la crainte. Pire que mon père, c'était d'autres cousins du village qui ne pouvaient pas dormir s'il n'y avait pas une croix en bois sous leur lit. Voilà. Ou quelque chose en forme de croix sous l'oreiller, ou voilà, ils avaient toutes sortes d'éléments. Parce qu'ils, des adultes, hein, des hommes, hein, qui avaient peur de s'endormir parce qu'ils voyaient des esprits, des choses partout. Donc, encore une fois, la foi, c'est pas ça du tout. La foi, c'est le Seigneur qui nous aime, qui est plus grand que tous les esprits, les sorcières réunies, et qui nous protège, qui veille sur nous et qui nous donne un bon sommeil quand on s'endort dans ses bras, quand on lui remet notre âme avant de dormir. Exerce-toi la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et on va terminer avec donc cette vérité très importante. L'exercice physique est utile à peu de choses. Et effectivement, c'est utile pour rester en bonne santé, pour ne pas développer de nos jours du diabète ou des problèmes de cœur ou pour ne pas être handicapé ou je ne sais pas. Faire de l'exercice physique aussi permet d'éliminer les toxines et de se sentir plus en forme, d'avoir une vie plus équilibrée. Maintenant, c'est utile à tout ça qui est très peu en fait. Ce qui est vraiment utile dans la vie, ce n'est pas avoir des diplômes, ce n'est pas avoir une tête comme ça, c'est la piété. Et la piété a cette mauvaise image, hein, de quelque chose d'ennuyeux. Quelqu'un de pieux, quand on vous dit pensez à quelqu'un de pieux, en général on pense à un grenouille de bénitier ou un bigot. Hein. Quand on dit ah lui il est pieux, alors là, ou elle est pieuse, c'est pas toujours un compliment. Et pourtant la piété c'est quelque chose de magnifique. En anglais, godliness, de ressembler à Dieu. Et le grec c'est plutôt l'idée donc d'aimer Dieu, d'être proche de lui. Et la piété, c'est ce temps qu'on passe avec le Seigneur, pour le Seigneur. C'est cette dévotion à Dieu, c'est cette adoration, cette louange qu'on donne au Seigneur. Alors effectivement, ça peut paraître du temps perdu. Il dit, mais attends, il faut faire ça, il faut faire la cuisine, il faut faire ci, hein. Qu'est-ce que tu perds ton temps là en contemplation? Mais ce n'est pas juste de la contemplation, c'est de la piété. C'est que je laisse Dieu me parler, me toucher. Pensez aux disciples de Jésus. Ils ont passé des heures entières à ses pieds à l'écouter. Vous vous rappelez l'histoire de Marthe et Marie? Marthe qui est dans sa cuisine, qui je ne sais pas ce qu'elle faisait encore, ou elle travaillait là, et Marie qui passe du temps aux pieds du Seigneur. Et Marthe qui conçoit de l'amertume en disant, ben, tu pourrais venir m'aider au moins, hein, au lieu de rester là à rien faire, les yeux enamourés. Mais le Seigneur dit, Marie a choisi la meilleure part, elle a choisi la piété. Elle a choisi de passer du temps avec moi parce que son âme est nourrie et fortifiée, parce qu'elle apprend des choses de moi. Quand on passe du temps avec Dieu, Dieu nous transforme, il nous parle, il nous change. Et ce qu'on va faire ensuite va être fait avec une puissance et une qualité supérieure. Quand on va agir, on va mieux agir. Parce qu'il ne s'agit pas de passer toute sa vie dans sa chambre et à méditer comme ont fait certains mystiques, hein, dans une grotte ou dans, comme certains ermites aussi, en haut d'une colonne. Non, Mais il y a un temps pour la piété et un temps pour l'action. Et la piété, c'est une action, mais entre soi et Dieu. C'est le temps qu'on consacre au Seigneur pour l'aimer, pour lui dire qu'on l'aime. Si on est dans la religion, on ne va pas avoir beaucoup de piété. Dans la religion, on va être dans les œuvres. On va faire des œuvres. Ah, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Et je suis un bon chrétien parce que j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Dans la parole de Dieu, ce qui compte d'abord, c'est la piété. La piété n'est pas une œuvre, c'est ce remerciement, cette relation avec Dieu. Jean a écrit, la vie éternelle, c'est qu'il fasse plein d'œuvres. C'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, la piété. Et là, on a du mal à être équilibré, hein. On va être trop dans la contemplation, pas assez dans l'action, ou trop dans l'action, pas assez dans la contemplation. C'est encore au Seigneur de nous donner l'équilibre dans notre vie. Si on marche près du Seigneur, on aura les deux. Il faut toujours se rappeler que la piété est utile à beaucoup de choses, il dit même à tout. Pourquoi? Parce qu'elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, c'est-à-dire elle est utile présentement et elle est utile pour l'éternité. Quand je suis près du Seigneur, mon éternité, ça veut dire que je crois au Seigneur et j'aurai la vie éternelle. La piété me sauve quelque part. La piété, c'est la porte du salut. C'est la foi qui sauve. Mais la piété est utile à la vie présente. Il y a des gens qui pensent que, oh ben vous, oui, vous avez la vie éternelle, mais sur la terre, il ne se passe pas grand-chose, hein. Mais non, un vrai chrétien, sa vie éternelle, elle commence quand? Dès qu'il accepte le Seigneur. On n'est pas là en disant, ah, un jour, on va. Non. Du moment où on accepte le Seigneur, la vie éternelle commence. On a la vie de Dieu en nous qui nous change et qui agit. Et on peut agir et on peut faire des choses merveilleuses. Et la piété, c'est cette relation avec Dieu qui va nous porter vers les autres. Parce que quand on est en relation avec Dieu, quand on le prie, quand on l'écoute, il nous indique quoi faire. Si on ne passe pas du temps avec le Seigneur, on va agir dans la chair. On va faire des bêtises. Et on va s'épuiser ou on va être paresseux. Mais quand on est près du Seigneur, il va nous motiver. Son esprit va dire, va, voilà, fais ça, prie, agis, témoigne, écris. Et c'est guidé par la piété qu'on va agir. L'exercice physique, c'est un peu utile, mais la piété, c'est le plus utile de tout et c'est pourtant le plus négligé par les chrétiens. Combien de temps de qualité avons-nous avec le Seigneur ou simplement, on l'écoute. Même parfois, on peut lire la Bible comme un devoir, hein. J'ai mes trois chapitres à lire. Au lieu de lire la Bible en disant, Seigneur, parle, ton serviteur t'écoute. La prière, on a notre liste, hein. Seigneur, numéro un. Alors, numéro un, numéro deux. C'est pas la piété, ça. La piété, c'est Seigneur, je suis là devant, à tes pieds, je t'écoute. Le plus bel exemple de piété, à part Marie, c'est cette femme, hein, qui est allée aux pieds de Jésus avant qu'il ne soit arrêté et qui a répandu du parfum. Hein, le parfum était à base d'huile à l'époque et le nard, hein, qu'elle a déversé coûtait très très cher. C'est-à-dire c'était du plus cher que une bouteille de Chanel numéro 5, hein, grande version. Et elle a déversé toute sa bouteille sur les pieds de Jésus en pleurant. Et il y avait, jusqu'au point que Judas n'était pas content et que d'autres n'étaient pas contents, mais comment tout cet argent, on aurait pu vendre ce parfum et acheter quelque chose avec, et elle met tout sur les pieds, là, franchement, une petite goutte, ça suffisait, hein. Et ils n'ont pas compris que cette femme, elle était dans la piété. C'est qu'elle voulait exprimer au Seigneur sa reconnaissance d'avoir été sauvée, pardonnée. Et pour elle, rien n'avait plus de prix. Elle a donné tout ce qu'elle avait de plus cher, son parfum le plus cher, elle a donné, elle a dit, c'est pour le Seigneur. Elle a consacré ce qu'elle avait de plus cher à Jésus-Christ. Et c'est ça la piété, c'est cet amour sans borne pour le Seigneur qui nous fait faire des choses parfois étonnantes, parfois bizarres même aux yeux des autres. Comment? Mais tu aurais pu faire autrement. Mais n'empêche que quand on le fait pour le Seigneur, il y a du fruit, il y a La gloire. D'ailleurs, le Seigneur a dit, on parlera hein, de ce qu'a fait cette femme hein, jusqu'à la fin. Hein. Et c'est vrai qu'on en parle encore, je vous en parle ce soir. Cette femme dont on ne connaît même pas vraiment le nom, mais ce qu'elle a fait là, c'était un exemple de piété. Que le Seigneur nous aide à l'imiter et à être des chrétiens pieux et pieuses selon la vérité. On va terminer en priant.